celui qui s'élève sera abaissé. Voilà. Puis il fait moins chaud plus bas. Normalement, dans les montagnes, c'est le contraire. Il fait plus froid en altitude. Mais ici, il fait plus chaud en altitude. La chaleur monte. Voilà. Bien. Ben, bonjour à tous d'abord. Nous allons continuer donc ce matin et cet après-midi, pour aujourd'hui, des choses que nous avons déjà envisagées depuis jeudi soir. Quelqu'un hier m'a parlé et m'a dit qu'il aurait souhaité, il n'est pas là, mais ça ne fait rien. Je crois qu'il a dit quelque chose de fondé, qu'il puisse y avoir aussi comme un temps de réponse, de questions, de partage. Et je crois que c'est bien aussi qu'il puisse y avoir, même pour moi, je suis demandeur, un retour par rapport à ce qu'on a partagé. Alors, comme on a un peu plus de temps ce matin, je vais commencer par ça, pour commencer, si vous voulez, avant de prendre la suite d'hier soir, qui n'était pas là hier soir. Ça fait quand même un certain nombre. Donc, pendant une heure, je vais refaire le message d'hier soir. Non, je plaisante, c'est une boutade. Je vais juste le synthétiser très rapidement. Maintenant, pour vous qui êtes là, bon, dites-moi d'abord s'il y a une chose par rapport aux choses partagées qui nécessiterait que vous vouliez prendre la parole maintenant. Vous levez la main? Je vous ai vu lever la main. Non, j'ai cru. C'est bon là? D'accord. Bien, alors nous allons refaire la lecture qui était la base de l'enseignement d'hier soir. Nous allons recadrer le cadre de réflexion, recadrer la réflexion. Voilà, c'est à l'écran, alors c'est bien. J'espère que l'écran ne vous empêche pas de lire la Bible. Bon, c'est bien. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? On peut continuer encore un peu. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je vais arrêter là la lecture. S'il y a des éléments à prendre après, nous le ferons tout à l'heure. Donc, on va recadrer le sujet. Pour ceux qui étaient là comme pour ceux qui n'étaient pas là, lorsque l'on parle de guérison intérieure, on parle de quoi? Alors, a priori, ça pourrait sembler parler de consolation, d'apaisement, de presque d'oubli de certaines choses vécues, peut-être avec dureté, difficulté, etc., etc. C'est vrai qu'il y a un aspect des choses qui est là exprimé, mais je n'ai pas choisi cette approche. J'ai choisi plutôt de voir la question d'une manière plus large, parce que dans ce qui est plus large, il y a la réponse à ce qui est particulier. On ne va pas du particulier vers le général, mais du général vers le particulier. Et de toute façon, quelquefois, il pourrait arriver que si l'on a mal au bout du pied, la cause n'est pas dans le pied, mais la cause, elle peut être beaucoup plus haut dans le corps et elle peut être ailleurs. Donc, ce qui est vrai dans le corps, c'est vrai aussi dans l'âme. Ça veut dire que si on a mal quelque part, c'est pas forcément là où on a mal qu'il y a le bobo. Ça peut se trouver ailleurs et les soins, il faut les appliquer ailleurs. Et c'est ainsi que j'ai considéré le sujet en rapport avec notre salut, car lorsque l'on regarde l'enseignement de la Bible, même les termes utilisés dans les écrits bibliques, on s'aperçoit que le mot salut et le mot guérison sont parfois synonymes et expriment les mêmes choses, car il y a dans le salut que nous avons dans le Seigneur un aspect de guérison, un aspect de rétablissement, un aspect de soin que Dieu nous apporte. Bon, ça c'était le cadre général que nous avons vu, et hier soir, donc, je me suis attaqué avec vous à ce passage. Il a été contesté par certains en disant que finalement, cette pratique de l'onction d'huile, bon, c'était plutôt pour les juifs, etc., etc. On va pas entrer dans un débat sur le sujet. En fait, ce texte a une portée universelle, parce qu'il faut pas s'attacher à regarder l'huile et la sorte d'huile qu'on doit utiliser. Il faut surtout regarder le contenu spirituel qu'il y a dans ce message qui nous est laissé là. Je dis ça parce que, m'étant trouvé en Israël, il y avait des vendeurs d'huile. Ah, vous savez, il y aura toujours des gens pour faire commerce de tout. Et donc, ils vendaient de l'huile pour l'onction d'huile, en disant, ça c'est la véritable. Alors, ils avaient des aromates, des ingrédients, j'en ai pas acheté, mais je me suis dit quand même il y a problème, parce que si on s'attachait à regarder l'huile d'onction dans l'Ancien Testament, l'huile qui servait non pas à la cuisine, non pas à l'éclairage ou autre chose, mais l'huile qui servait à oindre les sacrificateurs, il était interdit d'en faire des copies. Alors déjà, c'est suspect. Et la vendre encore plus. Voilà. Alors, il y avait quand même des gens qui l'ont acheté parce que le cœur humain est superstitieux. Superstitieux. Et même il y a parfois, chez les chrétiens, et ça c'est une guérison qui est nécessaire, des restes de superstition. Des restes de superstition. Soit qui vient cette superstition de l'ancienne religion, de l'arrière-plan culturel, ou alors tout simplement, ben, c'est naturel en fait. Personne n'a appris aux gens à être superstitieux. Souvent c'est instinctif, ça vient de la chair. C'est pour ça que il est écrit dans l'épître aux Galates que la magie, elle est dans les œuvres de la chair. La magie est une œuvre de la chair, c'est écrit, Galates chapitre 5. On va dire non, c'est diabolique, et tout. Non. Comme je l'ai expliqué hier soir, celui qui croit dans des actes magiques, même dans l'Église, c'est charnel. Et si on attribue à un geste, à un objet, ou à une personne, ce que seulement Dieu peut accomplir, on s'attend à des réponses magiques. Magiques. C'est charnel. C'est pour ça que c'est dans la liste des œuvres de la chair. Et, pour revenir sur le sujet, donc, hier on a vu quelques termes ici qu'il est très important de comprendre. Alors, quelqu'un parmi vous est-il malade ? Nous avons vu que ce mot asthénique, en fait, désigne pas seulement la maladie au sens physique, mais un état de faiblesse. Donc, il a besoin de soins. De guérison, mais encore faut-il s'entendre sur le sens du mot, de guérison spirituelle, pas seulement physique. Il appelle, et nous avons vu que ce verbe appeler ne voulait pas signifier qu'il faut pratiquer la chose dans l'église ou à la maison, etc., ce qui est complètement accessoire, car on peut se déplacer qu'à quelquefois avec une maladie mortelle et on ne peut pas se déplacer avec quelque chose qui est beaucoup plus insignifiant. Donc ça n'a rien à voir. Le verbe appeler ici veut dire exactement demander de venir à soi. C'est tout un message. Ce n'est pas chez soi, c'est à soi. Je répète ces choses pour ceux qui n'étaient pas là. Ça veut dire qu'il faut déjà, dans la démarche de guérison, je veux dire de soins, parce qu'il faut se laisser appliquer les soins spirituels que Dieu va nous montrer, il faut avoir cette attitude de permettre à Dieu de venir à nous. Et souvent, nous insistons sur l'aspect des textes de la Bible où Jésus dit « Venez à moi, venez à moi ». Oui, c'est bien de venir à lui, mais encore faut-il que lui puisse venir à nous. Il y a une catégorie de personnes desquelles il dira « Je ne vous ai jamais connu ». Ça veut dire quoi, ça? Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire, non pas que j'ai ignoré qui vous étiez, votre caractère et tout ça. Non, ce n'est pas ça. C'est, je n'ai pas pu venir à vous. Je n'ai pas pu avoir une intimité avec vous. Je n'ai pas pu entrer dans vos problèmes. Parce que vous ne m'avez pas ouvert la porte. Je ne vous ai jamais connu. Et quand on s'arrête sur le sens biblique du verbe connaître, alors on s'aperçoit que ça peut aller très loin dans l'image, et que cette image qui n'est pas déplacée, elle exprime bien donc une relation très intime entre le Seigneur et celui qui a besoin de soins. Car si celui qui a besoin de soins est réticent, réfractaire, qui recule toujours, alors qu'on veut lui appliquer un soin, comment voulez-vous qu'il soit guéri? Donc, appeler, c'est ça que ça veut dire. Mais là, il est question d'appeler des anciens, c'est-à-dire des responsables dans l'Église. Mais ça veut dire, et je vous l'expliquais hier soir, que si l'on demande à des personnes de nous aider, il faut aussi leur permettre de venir à nous. Pas seulement de venir chez nous, mais de venir à nous. Car on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir, avec des limites que j'ai expliquées, qu'on n'a pas un droit d'ingérence dans la vie des autres. Même un pasteur a des limites, il a une déontologie normalement qui lui interdit à un moment donné de pénétrer de force dans la vie des gens. Parce que là, c'est quitter le terrain du ministère pour entrer dans le terrain de l'inquisition et devenir un gourou. Et un berger n'est pas un gourou. Et le problème est qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs de gourous. C'est pour ça qu'il y en a. Et que ça marche. Et même, il y a parfois des comportements de responsables religieux qui sont encouragés, même s'il y a déviance, parce que les gens sont demandeurs. Voilà le problème. Permettez que j'enlève ma veste. Est-ce que vous réfléchissez à ça ? Hier et avant-hier, je ne veux pas... Oh, c'est pas grave. Je ne veux pas utiliser la langue de bois. Vous comprenez ? Je crois que parfois il arrive, et j'assume le risque que je prends en disant ça, il arrive que dans la prédication, dans la manière d'enseigner les choses ou d'évangéliser, on utilise la langue de bois, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne veut pas dire et tout, alors qu'on sait très bien que dans l'auditoire, les gens quand même réfléchissent. Heureusement. Ils ont le droit, non? Non, ils n'ont pas le droit, ils ont le devoir. Ils n'ont pas le droit, ils ont le devoir. Si donc on arrive sur des sujets comme ça, en utilisant la langue de bois, on n'est pas crédible. Enfin, moi je le dis comme ça. On n'est pas crédible parce que, vous savez, les gens ne sont pas dupes. On leur dit des choses qui n'arrivent pas, ils se posent des questions. Alors on leur donne la réponse, on leur dit que c'est parce qu'ils sont dans le péché ou qu'ils n'ont pas la foi. Laissez-moi dire que c'est grave. C'est grave d'entretenir un climat comme ça d'infantilisation des gens. On n'a pas le droit. Et je veux donc dire les choses telles que je les ressens. Je veux vous dire les choses qui me mettent mal à l'aise, c'est la langue de bois, c'est le mensonge officiel, c'est-à-dire on maintient une ligne de conduite et on voit le contraire. Alors il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je préfère qu'on dise, on n'a pas l'explication, plutôt qu'on veuille absolument en trouver une qui va culpabiliser les gens et dominer les consciences. Donc, ces précautions étant prises, il est quand même nécessaire, un, que ceux qui ont une fonction d'aider les autres aient la compétence requise pour ça. Et quand tout à l'heure, je vous parlerai sur le fait de l'onction d'huile, l'application de l'huile, si celui qui veut s'occuper du malade en lui appliquant de l'huile n'a pas lui-même reçu une application de l'huile par Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Il faut de la compétence. Et quelquefois, on s'est retranché derrière des arguments en disant « Oui, mais c'est Dieu, l'homme n'est rien, c'est Dieu. » Je regrette, contrairement à un lieu commun qui a répondu, qui consiste à dire « Il ne faut pas regarder aux hommes. » Eh bien, moi, je vous dis, il faut regarder aux hommes. Ce qui va surprendre une fois de plus, même si mon message est un petit peu, comment vous dirais-je, hors norme, anticonformiste, mais ce qui compte, c'est la vérité. Écoutez, vous ne regardez pas aux hommes, vous ? Ben oui, et puis j'allais dire, c'est normal et vous avez raison, parce que Dieu passe au travers des hommes pour aider les gens, pour bénir les gens. L'apôtre Pierre, c'est vrai qu'il a dit à un moment donné, pourquoi est-ce que vous avez les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance que nous ayons fait marcher cet homme ? Mais avant de dire ça, il avait dit, ainsi que Jean, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement. Donc, eh oui, par exemple, dans un autre domaine, la monitrice, le moniteur qui enseigne les enfants regardent qui ? Ils écoutent qui ? Le moniteur ou la monitrice ? Et si jamais ils ne le font pas, eh bien, le moniteur ou la monitrice aura le droit de dire « Hey, c'est moi que vous regardez. C'est pas votre illustré que vous avez amené votre bande dessinée à l'école le dimanche. C'est moi qu'il faut regarder, c'est moi qu'il faut écouter. » Et vous avez raison. Donc, il faut regarder quand même à la nécessité pour l'Église d'avoir des gens compétents. Il y a toutes sortes de compétences. Des compétences techniques, des compétences artistiques et tout, mais il y a aussi des compétences médicales. Et franchement, si le discours officiel dans l'Église, c'est de dire des aberrations pour des gens qui ont la formation médicale, c'est grave. Oui ou non ? Je parlais de ces gens le premier soir qui jettent la pierre aux psychiatres, aux psychologues, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est d'ailleurs qu'un psychiatre, ni un psychologue, ni la psychiatrie, ni la psychologie, ils jettent la pierre, ils diabolisent, et ils disent des choses péremptoirement que les gens compétents qui ont étudié pour savoir sont surpris d'entendre parce qu'ils n'étaient pas au courant. Alors, même le pasteur que je suis sait que dans certains domaines, je ne suis pas compétent, donc je vais demander à des gens compétents pour ne pas dire des bêtises. Surtout médical. Donc, faire appel aux anciens, demande aux anciens d'être à la hauteur de la situation. Alors, c'est un autre domaine sur lequel on ne m'a pas demandé de m'exprimer, mais je m'exprime quand même. Il ne suffit pas dans l'Église d'avoir envie de faire quelque chose pour faire quelque chose. C'est bien d'avoir envie de faire quelque chose. Mais normalement, alors évidemment, vous allez me dire, frère, il faut de l'amour. Oui, mais il faut aussi l'amour des autres. C'est ce que je disais un jour par rapport à une personne qui monopolisait un petit peu dans le culte public la parole qui est distribuée pour les louanges et les prières. J'ai dû l'arrêter. Quelqu'un m'a dit, vous avez manqué d'amour. J'ai dit non. On était 500. J'ai dit, j'avais le choix. Ou laisser faire une personne qui a envie de s'exhiber au détriment des 499 autres, et j'ai choisi de manifester plutôt de l'amour pour les 499 que pour la une qui voulait s'exprimer, quoique je n'ai pas manqué d'amour non plus envers elle, parce qu'en la faisant taire, c'était pour lui apprendre quelque chose. Mais oui, il faut de la compétence spirituelle. Voilà. Donc, je ne veux pas me laisser aller dans des grandes explications, mais je crois que ça fait partie du sujet, parce qu'il n'y a aucun sujet qui n'est pas relié aux autres, ou qui ne soit pas relié aux autres, qui l'appelle. Alors la question est, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre fonction, mais la question est-ce que si on me fait appel, je suis à la hauteur, quoi ? Vous savez, c'est un problème. Je vous le dis sans gêne, pour moi c'est un problème à chaque fois qu'il faut prêcher. Parce que, attendez, il ne s'agit pas de dire « Oh ben j'ai quelques messages numérotés dans ma sacoche, je vais vous les sortir, vous voulez lequel ?» et hop, c'est parti. Non, il faut être à la hauteur. J'ai pas mal circulé, j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal enseigné dans divers endroits, en France et ailleurs, et pour moi, à chaque fois, une réunion, c'est une nouvelle réunion, et je dois l'aborder comme si j'en avais jamais fait avant. Donc, avant d'aller mettre de l'huile sur les autres, il faut d'abord être allé en chercher pour soi. Sinon, on va donner quelle huile ? Je ne parle pas de l'huile de la bouteille, mais je parle du remède qu'on va appliquer aux gens. Et c'est important de ne pas dire aux autres des paroles à la légère. Et nous avons vu que, finalement, vous pouvez dérouler les versets après, s'il vous plaît. Voilà. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Je me suis beaucoup attardé, j'y reviens encore ce matin, sur en fait l'objectif de Dieu. Sauver le malade et le relever, ce qui ne veut pas forcément dire obligatoirement qu'il sera forcément débarrassé d'une maladie en tant que telle. Mais ce qui compte, c'est que la manière dont il va vivre sa maladie en tant que malade soit différente de la manière dont il aurait pu la vivre autrement. Ça veut dire, il y a des malades abattus et il y a des malades relevés. Même si le problème subsiste. Parce que, à l'évidence, la plupart d'entre nous, nous cohabitons avec des problèmes. Et quand un sera réglé, un autre viendra. Donc dire aux gens, venez à Dieu, vous n'aurez plus de problème, ça c'est un problème de dire ça. Parce qu'on devient un problème pour les gens qui ont des problèmes, et qui forcément ne remettent pas en cause celui qui dit ça, mais ils remettent en cause eux-mêmes et se culpabilisent. C'est toujours pareil, moi je suis très très concerné, très très sensible à ne pas culpabiliser les gens à tort. Parce que si je les culpabilise à tort, quand il faudra par contre mettre le doigt sur un vrai péché, ils sont tellement distraits par des fausses culpabilités qui ne regarderont pas au véritable qu'il faut soigner. Vous me suivez ? Donc le Seigneur va relever le malade et le sauver. L'importance du malade plus que de la maladie. C'est la personne qui compte pour Dieu. Il ne s'agit pas d'afficher des scores et de dire, admettons, tant de cancers, tant d'aveugles. Pour Dieu, ce n'est pas le cancer qu'il soigne, c'est le cancéreux, si cancéreux il y a. Le mot n'est pas péjoratif, c'est vrai que ça fait drôle. J'entendais un jour une personne exprimer, comment dirais-je, son trouble en disant, parce qu'il fallait, pour la première fois de sa vie, il fallait qu'elle dise « je suis cancéreux ». Quand on a un cancer, on est cancéreux. Si on n'a pas de cancer, on ne se rend pas compte, quand on dit ça, de l'impact que ça a sur les gens qui ont un cancer quand on parle des cancéreux. On ne se rend pas compte de l'écho, de la résonance du mot. Quand quelqu'un est comme conduit à dire non pas seulement j'ai un cancer, c'est pas facile à dire. Pas facile à dire. Mais je suis cancéreux. C'est très dur. Mais le Seigneur est plus préoccupé du cancéreux que du cancer. Est-ce que vous me suivez ? Et si vous abordez un malade, quelqu'un qui a une maladie, une difficulté quelconque, en fait, parlons, admettons, de la dépression. C'est pas un péché, la dépression. C'est pas la dépression qui est à considérer. C'est celui qui est déprimé. C'est pas pareil. La personne. Il est dit, dans le même contexte, priez les uns pour les autres. C'est pas en rapport avec les mots des gens, c'est en rapport avec les personnes. Attachons-nous aux personnes. Aimons les personnes. Soignons les personnes. Et la personne qui est malade, qui se relève, ça porte un nom. J'avais prévu de le dire hier soir, je ne l'ai pas dit, parce que ça m'a échappé, puis ça m'est revenu après la réunion. Ça porte un nom dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la résilience. Qui a entendu parler de la résilience? C'est quoi la résilience? La résilience, c'est le fait de se relever après un traumatisme. Alors au départ, c'est pas un mot qui a un rapport avec la médecine, la maladie, c'est un mot qui est en rapport avec un autre domaine, et puis le mot a été repris, notamment par un médecin psychiatre qui lui-même est passé par des très grandes épreuves, et qui s'appelle Boris Cyrulnik. Il est bordelais, c'est un juif. Je crois qu'il a eu toute sa famille de décimés dans la déportation. Enfin, il est passé lui-même par beaucoup de choses, et il parle de... Il a écrit des livres sur la résilience. C'est quoi la résilience? R-E-S-I-L-I-E-N-C-E. C'est, j'emploie un autre mot, peut-être qu'il va plus vous concerner, vous parler. C'est rebondir. Voilà. C'est rebondir. Alors, parfois, il faut rebondir après une maladie, après un deuil, après un échec. Il n'y a pas que des succès, hein. Il y a des échecs. Il faut rebondir après une déception. C'est le fait de ne pas se laisser hypothéquer par ce qu'on a vécu, mais allez, comme Abraham, nous l'avons vu hier soir, il se leva de devant son mort. Voilà. Alors, la Bible parle de ces choses avec ses mots à elle. Le mot résilience n'est pas dans la Bible, mais le fait y est. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui compte. Alors, qu'il prie. Parce qu'on voit ici que la prière est mentionnée à plusieurs reprises. Au début, c'était « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» qu'il prie. Après, il y a « Que les anciens prient pour lui ». Après, il y a la prière de la foi. « Sauvera le malade, il lui sera pardonné ». Après, il y a la « Prier les uns pour les autres ». La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et puis, je crois même qu'après, il est question d'Élie. Élie était un homme d'âme. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas, puis il pria, etc. Donc voilà, on va s'attacher maintenant à développer cette notion de prière. Parce que la prière, je vais me répéter dans ma façon de dire les choses, elle n'est pas magique. Dans toutes les religions, on prie. Dans toutes les religions, on prie. Plusieurs fois par jour, même selon ce que la religion impose. Mais moi, comme je vous le disais déjà, je crois, hier ou avant-hier, ce qui me surprend, ce qui m'interpelle, c'est le fait de voir parfois des personnes qui véritablement semblent prier, beaucoup même, et lire la Bible, mais qui vivent toujours aussi mal leur situation. Je ne dis pas ça pour juger, pour condamner. Mais quand même, il faut prendre ça en considération. Ne serait-ce que pour aussi le témoignage rendu. Admettons, n'est-ce pas, des parents prient beaucoup, mais les enfants ne constatent pas que dans le comportement, dans les paroles, dans la manière de commenter ce que l'on vit, il y a un changement. Et quelquefois, ce sont les incroyants qui leur remontent le moral. Ah. Alors, c'est pas que je blâme qui que ce soit. Chacun a le droit à la faiblesse et à l'erreur, même les chrétiens. Mais quand même, il y a quand même un problème. D'où une grande interrogation à laquelle j'essayais de réfléchir. Quelle est la prière qu'il faut prier pour qu'elle soit efficace? Parce qu'on dit la prière est efficace. C'est écrit dans la Bible. Oui, mais moi j'ai vu des prières qui n'étaient pas efficaces. Ça fait partie de ma façon de parler, sans langue de bois. Mais je veux dire tout haut, tout ce que je constate. En tant que pasteur et aussi dans la vie des gens, je veux avoir un discours crédible. Et si je vous disais comme ça, péremptoirement, toutes les prières que vous faites, Dieu va les exaucer, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez me croire parce que vous êtes charitable. Et je le dis sans boutade, les gens sont disposés à croire tout ce qu'on leur dit. Mais il faut que celui qui dit fasse attention à ce qu'il dit, pour ne pas induire les gens dans l'erreur. Et après, la frustration et la déception et l'abandon de la foi. David Wilkerson, dont vous avez sûrement entendu parler, mort accidentellement il y a quelques mois, a écrit un livre il y a longtemps qui s'appelle « Prêt à tout abandonner ». Je ne sais pas si vous l'avez vu ou lu. Je crois que la couverture représente une corde qui est sur le point de se rompre. Il n'y a plus qu'une brindille qui tient. Alors quand j'ai vu le titre, j'ai pensé que ça, être prêt à tout abandonner, que ça parlait de consécration en s'adressant aux gens qui devaient être prêts à tout abandonner pour suivre le Seigneur. Mais non, mais c'est pas ça. David Wilkerson s'adressait aux gens qui étaient prêts à tout abandonner parce qu'ils avaient comme l'impression que tout ce qu'on leur avait dit ne s'était jamais accompli. Conséquence désastreuse d'enseignement qu'on a appelé la doctrine de la prospérité, du succès, vous savez, ces façons de présenter un évangile marketing où on prône qu'avec l'évangile on va devenir quelqu'un, on va pouvoir avoir tout ce qu'on n'a jamais pu acquérir par l'étude, par le travail. Il n'y a qu'à prier, hop. Alors, mais encore aujourd'hui, moi je souffre de voir des façons de présenter les choses qui certes sont populaires, ça attire. Parce que qui n'a pas envie de réussir? Qui n'aimerait pas arriver à la fortune sans travailler? Et voilà, on dit avec la Bible, avec Dieu, vous allez vous enrichir, vous êtes médiocre, vous n'avez jamais voulu apprendre le solfège, mais vous allez avoir un ministère pour la musique. J'exagère à peine. Il y en a qui se mettent ça dans la tête et qui se servent de l'Église comme faire valoir de talents qu'ils n'ont pas et que les braves chrétiens supportent avec beaucoup de patience et de commisération. Ah, vous riez, frère. Mais bon, je grossis le trait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors il faut le dire, quoi. On ne sait pas bien voir, mais il faut le dire. Il faut prendre la défense. Moi, je veux prendre la défense des brebis qui doivent subir parfois des choses à leur corps défendant, mais ils subissent parce qu'ils aiment Dieu, puis ils aiment même les incapables qui croient qu'ils sont capables parce qu'il y a le Saint-Esprit qui leur dit des choses, soi-disant. Moi, j'aimerais bien que le Saint-Esprit m'en dise aussi. Parfois, mais j'avoue que parfois, je ne sais pas trop ce qu'il veut. Voilà. Donc, la prière. Qu'est-ce que la prière? Là-bas, je crois qu'il y a un petit fascicule qui s'appelle « La prière qui apporte ». Bon, c'est peut-être des choses que je vais redire, ou je vais en dire d'autres. C'est parce que cette question me préoccupe. Pourquoi ça me préoccupe? Parce qu'en tant que pasteur responsable d'église, même si je ne le suis plus maintenant, à moins de changer tous les ans d'assemblée, ben, vous savez, j'ai fait des longs postes sur les mêmes églises 7 ans en Normandie, sur la même église 14 ans en Alsace, et sur la même église 21 ou 22 ans à Bordeaux. Il faut tenir dans la durée. Hein ? Quant à ceux qui nous disent que nous, on est des dinosaures et qu'on n'y connaît rien, on leur donnera rendez-vous dans 20 ans, peut-être qu'on ne sera plus là, enfin je ne serai plus là, mais on verra. Donc il faut quand même prendre en compte même la manière de faire prier l'Église. Peut-être vous ai-je choqué, et je demande pardon au pasteur parce que je ne lui ai pas demandé son autorisation pour dire ce que j'ai dit. Les chaînes de prière, où on se passe le mot pour demander à Dieu qu'il faille absolument guérir telle personne de son cancer. On est ému de compassion, ça, bon, c'est bien d'être ému. Mais on mobilise les gens, et quelquefois ça ne finit pas comme. Plus se grèvent des prophéties, pseudo-prophéties. Je connais un cas précis. Celui-là, je ne l'ai pas vécu, j'en ai vécu d'autres. Où donc, il y avait eu comme ça une mobilisation, chaîne de prière pour un enfant cancéreux, et prophétie à la clé que l'enfant cancéreux allait guérir. Mais il est mort. Alors, si je suis un pasteur normal, si j'ai conduit les brebis dans une telle initiative et que ça se finisse comme ça, je dois me sentir mal après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comme je suis un pasteur pas normal, je dirais à ce moment-là, non, mais c'est parce qu'on n'a pas bien prié, c'est parce qu'on n'a pas eu la foi, c'est parce qu'on est des incrédules, et voilà. Donc on ne veut pas se remettre en cause, mais on culpabilise les autres. Mais je dis, c'est grave, c'est la secte. Désolé. Moi j'ai vécu le cas d'un jeune homme, un homme jeune. Il n'était pas dans mon église, il était dans mais j'avais les parents. Et il a été atteint d'une tumeur au cerveau à l'âge de 30 ans. Et c'est là qu'on est venu me trouver, chaîne de prière, réunion spéciale et tout. J'ai dit, attendez, si vous voulez faire ça, il faut le faire pour tout le monde. Numéro 1, c'est pas parce que c'est le fils d'un homme en vue qu'il faut le faire. Malheur à ceux qui n'ont personne qui les connaît alors. D'accord ? Malheur à ceux qui n'ont personne qui les connaît, parce qu'ils n'ont pas les relations pour susciter des prières par-delà le monde entier. Et j'ai dit deuxièmement, moi je sens pas la chose, parce que si vous faites ça et que le garçon décède, on fait comment ? C'est un coup à perdre la foi, je leur ai dit. Oh, ils m'ont vu, ils m'ont regardé de haut, ils ont fait des réunions clandestines à côté. Ah oui. Bref, remuer ciel et terre. Et le garçon, il a eu ce qu'on appelle des rémissions. Alors, allez, frère, faut dire qu'il est guéri. J'ai dit non, je ne dirai pas qu'il est guéri. Même les médecins ne disent pas qu'il est guéri. Et à un moment donné, il est mort. Mais avant de mourir, ils sont allés trouver ce malade qui était leur ami d'école du dimanche. Et c'est là où quelquefois c'est un peu perverti tout ça, parce qu'il y a des relations inter-amicales, inter-copinage. Et autour de son lit à Villejuif, où il était hospitalisé, il faisait la chaîne de prière en lui disant « Allez, tu vas guérir, il faut que tu guérisses. » À un moment, il en a eu assez, le garçon. Et il a dit, écoutez, moi aussi j'ai prié. Et je ressens en moi que Dieu va me reprendre. Laissez-moi en paix. Non, ils ont continué leur tourment, leur persécution, leur harcèlement, le harcèlement spirituel, enfin qui n'avait rien de spirituel. Il est mort. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la chaîne de prière autour du cercueil pendant la mise en bière pour qu'il ressuscite devant les employés des pompes funèbres. Il n'est pas ressuscité, alors on a fermé le cercueil, il y a eu la cérémonie. Et moi j'ai vu de mes yeux vus un garçon de l'équipe qui faisait le harcèlement spirituel de la prière qui était dehors sur le trottoir avec un téléphone portable, qui téléphonait à distance au groupe de prière pour que pendant l'office funèbre, le cercueil s'ouvre et que le garçon revienne à la vie. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Vous voyez ? Et alors, et la jeune veuve, là, la jeune veuve, elle était complètement mise de côté, déjà, et puis complètement perdue. Les enfants, et ben alors, c'est un cas extrême, hein, mais on n'a pas le droit de faire ça. Et comme je disais hier soir, heureusement que dans la réalité du quotidien, c'est beaucoup plus simple. Je ne veux pas dire que ça se finit toujours par une guérison miraculeuse, mais je veux dire que si Dieu fait une guérison miraculeuse, il n'a pas besoin de tout ça. J'en suis la preuve vivante. Comme l'approche que l'on a du jeûne et de la prière parfois. Ouh, on dit, allez, on va prier, jeûner pour en quelque sorte harceler Dieu, pour l'obliger à. Non, mais si vous priez, si vous jeûnez, personne ne doit le savoir. Il y en a qui, sur leur Facebook authentique, écrivent à combien de jours de jeûne ils en sont. Alors que Jésus dit, si tu jeûnes, personne ne doit le savoir. Ils cherchent des performances, éblouir et impressionner les amis. Et comme les amis de nos amis sont nos amis, ça fait du monde. Franchement, trouvez-moi dans la Bible un enseignement doctrinal, systématique et dogmatique sur le jeûne. Il y en a ou pas ? Si on me demandait de faire un séminaire d'enseignement sur le jeûne et la prière, il serait vite fait. Parce que je n'ai pas de texte. Oui, j'en ai dans l'Ancien Testament, mais c'est pas pareil. Dans le Nouveau, j'ai quelques textes où on voit une pratique. Il priait, il jeûnait, et le Saint-Esprit dit, bon, j'accepte, bien entendu. Mais je vois pas que l'apôtre Paul ait enseigné que, par exemple, pour obtenir la guérison de force, il faille jeûner 8 jours. Moi, j'ai un garçon à Bordeaux qui est mort de jeûner. Je sais de quoi je parle quand je vous parle. Un garçon qui a fait l'école biblique, qui s'est mis dans la tête de jeûner 40 jours, que des chrétiens étaient au courant et qu'ils l'ont laissé faire, ils m'ont rien dit, parce qu'ils connaissaient mes opinions. Et avant même les 40 jours, le voisin du dessous a entendu un grand bruit dans le studio du dessus. Le garçon était tombé par terre, inanimé, mort. Mort de faim. Quel scandale, hein ? Oui, ces choses, ça existe. Mais il y en a d'autres qui ne font pas jusque-là, mais qui s'imposent des performances. Et bon, si vous voulez jeûner, jeûnez. Et prenez du temps devant Dieu pour chercher Dieu, etc. Et faites ça comme ça. Et puis en équilibrant les choses avec le travail, avec la famille, il faut quand même pas non plus tirer trop sur la corde. Et j'ai connu même des prédicateurs qui ont fait une dépression nerveuse de laquelle ils n'ont jamais guéri pour avoir voulu jeûner. Je l'ai vu, je peux vous donner des noms, je ne les donnerai pas. J'ai pas le droit de les donner, les noms. Je connais même un pasteur qui a dû quitter le ministère. Parce qu'en plus de son ministère, vu que l'église n'avait pas beaucoup d'argent, il avait un travail séculier. Et en plus, il a voulu jeûner 40 jours. Il a fait une dépression nerveuse de laquelle il ne s'est jamais remis. Il a dû abandonner le ministère. Je ne suis pas gay ce matin, hein. Mais il faut dire les choses, quoi. Donc, avec Dieu, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup... Alors, c'est là où je vais dire, alors vous le croyez ou pas qu'il suffit de parler à Dieu de notre problème ? De toute façon, il est déjà au courant. Il pourvoira à vos besoins. Alors la question c'est que vos besoins, c'est peut-être pas les besoins que vous croyez que vous avez. Ah, là, ça se corse. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Alors, pour aller vite, par rapport à ce que je disais hier soir, je disais, la prière, c'est pas un paravent, c'est pas une exhibition, l'évangile exhibition, ça non, ça marche pas avec le Seigneur, m'as-tu vu, écoutez-moi, comme je parle, quand vous priez, faites pas des longues prières comme les païens, ah, vous voyez, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés, au kilomètre. La prière marathon. Vous avez la prière paravent aussi. On se cache derrière la prière pour dissimuler des attitudes pour donner le change. Pour faire croire que. C'est pas ça. Qu'il prie, alors. Si je prends l'exemple du Seigneur qui a prié une nuit, par exemple, c'est écrit. Lui aussi, il a jeûné 40 jours, mais c'était conduit par l'Esprit. Il ne faut pas faire des copier-coller comme ça. Ça n'a pas de sens. Il s'est tenu toute la nuit dans la prière avant de choisir les disciples. Alors la question que je pose, si on veut aussi parler de nuit de prière, est-ce qu'il faut prier plus la nuit que le jour? Est-ce que la prière de nuit, Dieu l'entend plus que la prière de jour? Il est vrai que quelquefois dans le domaine des ondes, si vous êtes dans les ondes courtes, mais j'ai eu un temps un poste ondes courtes que j'ai toujours, parce que lorsque je voyageais dans certains pays, pour être au courant, j'avais donc les ondes courtes, et je sais très bien que par moment, à certaines heures, selon le soleil, le jour ou la nuit, il y a une meilleure réception. Est-ce qu'avec Dieu, c'est pareil? Il entend mieux la nuit, Dieu. Parce que c'est plus calme. Non, parce que de toute façon, quand il fait nuit ici, il fait jour ailleurs. Mais non! Un jeune homme, un jour, vint me voir pour me dire, vous m'avez pas vu dimanche parce que j'ai fait une nuit de prière entre samedi et dimanche. Je lui ai dit, t'aurais mieux fait de dormir dans la nuit et de venir avec l'église te réunir le dimanche. Quand Jésus a prié toute la nuit, je dirais qu'il n'avait pas prémédité de prier toute la nuit. Non, il fallait qu'il choisisse ses apôtres. Donc, il s'est mis à prier jusqu'à ce que. Et il s'est avéré que. Il a dû y passer la nuit. Et je ne crois pas que pendant toute la nuit, il a parlé. Il s'est tenu devant le Père. Pour que le Père lui parle. Car Jésus disait, le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Donc, la prière, c'est la prière que j'appellerai la prière de consultation, parce qu'on a besoin d'inspiration. Vous voyez déjà ici, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie, qu'avant de faire prier les autres, c'est à nous de prier nous-mêmes. Qu'on le veuille ou non, quelquefois on a dans l'Église des attentes irréalistes, c'est-à-dire que presque on voudrait déléguer notre responsabilité à l'Église, au pasteur, etc. Non. Et quelquefois, nous tombons dans le panneau. Ça veut dire que nous prenons sur nous, nous en tant que membres de l'Église, tellement les fardeaux des autres, que quelque part on les empêche de prendre leurs responsabilités. C'est un peu comme parfois des parents trop protecteurs. Ils veulent tellement assumer pour leurs enfants, tellement les protéger, que, bon, à un moment donné, quand ils sont lâchés dans la vie, parce qu'à un moment ou l'autre, il faudra bien être lâché dans la vie, ils n'ont jamais appris à prendre leurs responsabilités, les parents toujours. Alors après, évidemment, ils continuent de les suivre à distance, même quand ils sont mariés. Ce qui crée d'autres problèmes. Non, je pense qu'il faut enseigner la responsabilité personnelle de chacun. On l'enseigne par rapport au salut. On doit l'enseigner dans la vie chrétienne, dans l'Église. C'est vrai, il y a l'Église. Mais chacun a sa responsabilité quand il souffre. C'est se tenir devant Dieu lui-même. Parce qu'il a besoin peut-être de s'apaiser jusqu'à percevoir dans quel sens il doit se diriger. Et ça prend du temps. Combien de temps? J'en sais rien. Le temps qu'il faut, quoi. Parce que quand on est sous le coup d'une mauvaise nouvelle, par exemple, ou d'un événement dramatique et traumatisant, il y a la première impression qu'on a, la première impulsion qu'on a par rapport à ce qu'on aurait envie de faire. Mais, comme quelqu'un l'a dit avant moi, il ne faut pas agir dans la crise. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il faut donc se placer devant Dieu, c'est ça prier. C'est se placer devant Dieu, premièrement pour s'apaiser. Et je crois que la guérison intérieure, c'est déjà, par rapport à une situation, le fait d'arriver à un apaisement. C'est pas facile. Quelqu'un hier soir m'a posé la question pour savoir si j'allais parler de Paul et de son écharde dans la chair. Ben, j'ai dit je veux bien en parler, parce que Paul avait une écharde dans la chair, il a prié pour que le Seigneur l'enlève. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie, c'est ce qu'il a fait. La question est quelle était son écharde dans la chair, et si vous voulez mon avis, ce n'était pas une maladie. Il avait le droit d'être malade, après tout, y compris des yeux, comme certains l'ont relevé, mais c'est pas ça. Il avait une écharde dans la chair, un ange de Satan qui le souffletait pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et quand vous lisez bien les textes, il dit les choses pour l'empêcher de s'enorgueillir, et en fait, qu'est-ce qui pouvait bien l'empêcher de s'enorgueillir ? Je vois pas le rapport entre être malade et devenir humble. Je vois pas le rapport. Il n'y en a pas. Parce que quelquefois, les gens qui deviennent malades, pardonnez-moi, deviennent de plus en plus impossibles à vivre. Parce qu'ils sont exigeants, manipulateurs, et tout ce qu'on veut, et c'est pas la maladie qui rend modeste, qui rend humble. En fait, l'ange de Satan, c'était un mauvais esprit qui suscitait, qui inspirait partout où Paul allait, à des gens de le persécuter. C'était ça son écharde dans la chair. C'était la persécution. C'était le fait qu'il n'était pas populaire et qu'il y avait des gens qui le haïssaient d'une manière hors norme. Hors norme. Alors, il était fatigué de ça et il a prié le Seigneur que l'ange de Satan s'éloigne. Parce que, entre parenthèses, si un chrétien malade est malade par un ange de Satan, c'est grave là, ou je ne comprends rien. Ça veut dire que vous qui êtes au Seigneur et dont le corps est le temple du Saint-Esprit, voilà qu'un démon peut venir vous rendre malade. Mais non, ça va pas, ça tient pas. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Par contre, autour de vous, oui, un démon, il peut susciter pas mal de tribulations. Il peut inspirer beaucoup de gens à vous faire du mal. Ça oui. Donc, Paul a prié. Il a prié normalement, comme vous et moi, on le ferait. Seigneur, il y a ça, ça me fait souffrir, arrête-le. C'est normal de prier pour que la chose qui fait souffrir s'arrête. Mais en fait, ça ne s'est pas arrêté. Alors, à un moment donné, il a reçu une inspiration pour lui, parce que c'est bien d'avoir des inspirations pour les autres, mais c'est bien aussi d'en avoir pour soi. Comme je dis parfois, comment ça se fait qu'il y a des gens, ils sont toujours inspirés pour les autres, mais quand on les voit vivre, manifestement, ils ne le sont pas beaucoup pour eux. Non, mais c'est important, ça. Des gens qui donnent des prophéties dans l'Église, qui doivent être des paroles inspirées, mais quand vous les voyez vivre, ils manquent beaucoup d'inspiration. Ils n'ont même pas été inspirés pour ne pas faire un chèque sans provision. Alors, c'est bizarre. Pour terminer la parenthèse, c'est moi qui pense à mal, pardonnez-moi. Mais à un moment donné, donc, il a eu la réponse, « Ma grâce te suffit ». Il savait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, c'est comme ça, Dieu m'a répondu. Il n'a pas cherché à mobiliser l'église entière de l'époque pour faire une chaîne de prière pour que ce pauvre Paul soit débarrassé de son écharde dans la chair. Il a dit, bon, mais puisque c'est comme ça, je vais faire avec. Plus que faire avec, même. Je vais faire en sorte que ça contribue à la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est la prière que j'appellerai la prière de consultation, parce que nous avons besoin d'inspiration. Et si on ne sait pas comment il faut qu'on prie quand on souffre, ça arrive qu'on ne sache pas, alors j'appellerai maintenant la prière comme étant une prise de position qui est exprimée dans 1 Pierre 2:20, est-ce que le frère peut trouver 1 Pierre 2:20. Alors, attendez, il faudrait que je voie le contexte alors, peut-être un peu plus, où il est écrit, descendez un peu plus, 22, voilà, 23. Lui, Jésus, qui injuriait, ne rendait point d'injure, et maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, en fait, là, la position du Seigneur, pour arriver à un apaisement, c'était de dire, je m'en remets à toi. Comme David a dit dans son psaume, je remets mon esprit entre tes mains. Avant que ce soit Jésus qui le dise, c'est David qui l'a dit. Et si nous allons au chapitre 4 et au verset 19 de la même épître de Pierre, chapitre 4, verset 19, qu'est-ce qu'on lit ? Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors là, quelque chose qui peut étonner, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Ben oui, mais c'est une réalité que Dieu peut parfois permettre que nous souffrions. Et la guérison, c'est pas l'absence de souffrance. Mais c'est le fait d'être apaisé dans ce qu'on vit, parce que on s'en remet à Dieu, on remet son âme à Dieu en faisant ce qui est bien. C'est comme ça qu'on trouve l'apaisement. Mais c'est pas facile. On n'y arrive pas toujours du premier coup, parce que ça suppose qu'il y a des choses qu'il faut accepter. Je ne parle pas de résignation, mais je parle d'acceptation. Il y a des choses avec lesquelles il faut faire avec. Et non seulement donc on s'en remet à Dieu pour trouver l'apaisement, mais il est conseillé de le faire en faisant ce qui est bien. C'est pas évident non plus. Car quelquefois devant telle ou telle situation, on peut être tenté de faire ce qui n'est pas très bien. C'est-à-dire se venger. On peut être tenté de... Enfin, de beaucoup de façons, hein. Sauf celle qui consisterait à faire ce qui est bien. Je parlais tout à l'heure des déviations des gens parfois qui souffrent, et ça existe. Parce que c'est vrai que celui qui souffre a des droits, mais il a des devoirs. Et j'ai dû dire un jour à une personne, parce que c'était devenu insupportable, ce n'est pas parce que tu souffres que tu as tous les droits. Le droit de manipuler, le droit d'imposer, le droit d'être capricieux. Attendez. Parce qu'en faisant comme ça, au lieu d'attirer les autres, on les éloigne d'abord. Et puis, le témoignage, il est où ? Je comprends que l'on soit tenté d'utiliser peut-être sa souffrance comme moyen de chantage affectif sur l'entourage. Je comprends qu'on puisse être tenté de faire du chantage avec sa souffrance. Mais c'est pas pour ça qu'on ira mieux. Sur le coup, on ira mieux parce qu'on verra qu'on a réussi à apitoyer pas mal de personnes, mais après, ça va revenir. Après, ça va être la surenchère parce qu'il va falloir en rajouter, parce que les autres n'auront pas été dupes de la façon de faire, de manipuler. Alors que Dieu nous aide, ça c'est des voies de guérison. Voyez-vous, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on aurait peut-être pu penser au premier abord. Ou on aurait pu dire, bon ben la guérison c'est, je souffre, j'ai mal, j'ai pleuré, j'ai eu de la peine, toc, je prie, toc, terminé, il n'y a plus rien. Mais ça c'est pas de la guérison, c'est de l'anesthésie. Hein, l'anesthésie, ça aide un temps, mais on ne peut pas vivre toujours sous anesthésiant. Et ben justement, alors après pour les pauvres personnes qui ne trouvent pas la réponse à leur mal-être, bien après c'est la drogue. On trouve là, puis après la drogue, c'est de plus en plus fort. Ça devient un truc infernal, quoi. C'est un cercle vicieux. Alors, vous voyez, déjà, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Je dirais la prière qui conduit à l'apaisement. Donc j'avais un autre texte, mais je n'ai pas le temps d'en parler, je vous le cite, vous le lirez chez vous, c'est dans Philippiens 4 où il est écrit « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par la prière ». Ça ne veut pas dire « Faites connaître à Dieu vos besoins » qu'il n'est pas au courant, qu'il faut l'informer. Nos prières souvent sont des bulletins d'information, bulletins météo sur notre vie. Non, c'est « Parlez-lui de vos besoins et puis attendez qu'il vous montre ». Si ce dont vous croyez avoir besoin, vous en avez vraiment besoin, et attendez qu'il vous montre si en fait votre besoin, c'est la chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Comme Paul. Il croyait avoir besoin que Dieu le délivre des démons. Mais vous vous rendez compte, lui qui chassait les démons des autres, voilà qu'il avait un démon qui le tourmentait, donc il ne pouvait pas le chasser. Ça n'allait pas dans sa logique. Et ce dont il avait besoin, c'était que Dieu se glorifie dans sa faiblesse. Et la suite du verset 4, du chapitre 4 des Philippiens dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si ça se trouve, pour revenir à Jacques 5, dans notre situation de recherche de guérison que je vais appeler d'apaisement, on s'arrêtera au premier verset, on n'aura même pas besoin d'aller plus loin. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie, et quelquefois ça suffit de prier soi-même, et il n'y a pas besoin d'aller solliciter les autres, etc. Il n'y a peut-être pas besoin, ça se trouve. On trouve tout seul la solution, ça arrive souvent. Alors peut-être qu'on est déçu parce qu'on dit j'aurais tellement voulu que tout le monde le sache. Mais non, mais ça s'arrête. Maintenant, quelquefois, ça va plus loin. Alors, après, il y a différents termes. Quelle heure est-il? 11h20. Je continue un peu, vous me suivez? Il y a, parce que si je m'arrête là, je vais casser quelque chose dans le développement du sujet sur la prière. Dans le passage de Jacques 5, il est question de plusieurs termes sur la prière. Il y a la prière comment ? La prière fervente. Alors, c'est quoi la prière fervente ? Une autre traduction dit la prière agissante. Dans la Bible à la Colombe, je ne sais pas si quelqu'un a la Bible à la Colombe, c'est une traduction revue, la prière agissante. Mais le mot original, je peux le prononcer parce que vous allez vite l'identifier. C'est énergéo. Qu'est-ce qu'il y a dans énergéo? Énergie. Donc, en fait, c'est une prière dans laquelle on met de l'énergie, c'est-à-dire pas forcément des décibels, parce que ce n'est pas les décibels que Dieu exauce, mais c'est une prière dans laquelle on s'investit, quoi. Oui, parce qu'on ne prie pas du bout des lèvres ni du bout du cœur. C'est une prière dans laquelle on met son énergie, quoi. On s'y implique. On se plonge dedans, quoi. C'est pas la prière rituelle, formaliste. Non, c'est une prière dans laquelle on s'investit. C'est la prière fervente de qui ? Du juste. Alors le juste, c'est quoi ? D'ailleurs, et aussi la prière de la foi. La prière de la foi, c'est écrit, la prière de la foi sauvera le malade. Et la foi, dans la Bible, c'est un mot qui peut se traduire soit par foi, soit par fidélité. Si vous lisez le fruit de l'esprit dans l'Épître aux Galates chapitre 5, vous avez le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Mais certaines traductions ont mis la foi. Parce que c'est la même chose. Quelqu'un qui a la foi, on l'appellera un fidèle. Comme y a-t-il de fidèle? C'est ça, le fidèle. Et qu'est-ce que c'est que le fidèle? C'est celui qui s'attache à Dieu et qui est dans sa dans sa pensée, qui est dans sa volonté. Et donc la prière de la foi, ce n'est pas seulement la prière de la conviction. Encore une fois, je voudrais m'attacher à démontrer que la foi, c'est pas avoir tellement de conviction qu'on va convaincre Dieu. Quand j'étais pasteur en Normandie, je ne sais pas ici ce qu'il en est, mais il y avait des frères et sœurs qui avaient hérité d'une expression dans la prière, je ne sais pas trop d'où venait cette expression, dans laquelle ils disaient « Seigneur, nous allons assiéger ton trône de la grâce ». Ils disaient ça dans la prière, beaucoup disaient ça. Vous avez entendu ça déjà ou pas ? On va assiéger le trône de la grâce. Alors attendez là. Assiéger quelque chose ou quelqu'un, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en emparer, comme David a assiégé un village qui s'appelait Jébus, qui est devenu Jérusalem, et les gens de Jébus disaient « Jamais David n'entrera ici », donc il a dû l'assiéger et s'en emparer. Alors, ce qui me fait penser à un autre verset, voyez-vous, enchaînement d'idées, je suis trop bavard, hein. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, je vais vous dire deux mots là-dessus tout à l'heure, puisque je me suis vendu, donc il faut que j'aille jusqu'au bout pour me racheter. On va siéger le trône de Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? La Bible est dit ? Alors là, on enfonce une porte ouverte. Il a inauguré pour nous, au travers de sa chair, une route nouvelle et vivante. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce et de secours dans vos besoins. Vous avez besoin de l'assiéger ? Vos enfants, ils vous assiègent ? Papa, maman, je t'assiège pour que tu me donnes du savon pour que je fasse ma toilette. Pourquoi tu tousses ? Vous voyez ? Mais non, mais c'est pas ça, Dieu est un père. Et même s'il n'est pas encore notre père, dans la mesure où on n'a pas fait la démarche, vous n'avez même pas besoin de l'assiéger quand même. Parce qu'il nous a aimés le premier. Quant aux violents qui s'emparent du royaume de Dieu, c'est pas du tout le sens qu'on lui a donné. Le texte, je vais citer de mémoire, il faudrait que je reprenne mes études là-dessus, c'est de dire en fait jusqu'à présent le royaume de Dieu est forcé et il y en a qui veulent s'en emparer par la violence. Et ça voulait dire que certains voulaient par la violence s'opposer au fait au royaume de Dieu. Je vois votre surprise, mais c'est ça le texte. C'est pas par la violence qu'on s'empare du royaume de Dieu, mais le texte dit que certains ont voulu par la violence s'emparer du royaume de Dieu. Par la violence. Vous aviez du temps du Seigneur, les zélotes qu'on appelait, ils prenaient l'épée, ils voulaient par la violence. Et on en a encore aujourd'hui des gens qui sont un peu extrémistes, qui seraient assez partisans de nouvelles croisades. Ah, mais j'exagère pas, hein. Moi, je me suis opposé à certaines positions vis-à-vis des musulmans, par exemple, ou dans des positions extrémistes, pardonnez-moi de le dire, mais extrémistes que certains chrétiens ont vis-à-vis d'Israël aujourd'hui. Vous en avez, ils sont prêts à aller faire la guerre là-bas. Et à exterminer les Palestiniens. Je reçois aussi des emails, je suis pas sur Facebook, mais j'ai quand même Internet. Et je reçois parfois de ces circulaires de chrétiens extrémistes qui nous accusent, nous, de ne pas aimer assez Israël, en plus. Je dis, attendez, hein, moi je vais vous dire franchement, de mon voyage en Israël, j'ai un très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir, surtout de mon départ, où avec ma femme, on a été pris en garde à vue, parce que mon nom Hébert était suspect. Hébreu, ça vient de Hébert. Seulement le Hébert dont je suis qualifié vient des pays scandinaves, il ne vient pas d'Israël. Mais enfin bref, toute une histoire vraiment grave. On m'a cassé du matériel informatique. Enfin, bon, alors, c'est pas très très messianique ça. Je n'en veux pas, mais je dis simplement pour l'anecdote. Donc, ce n'est pas les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, c'est heureux les pacifiques, ceux qui aiment la paix. Et dans ces conflits qu'il y a là-bas, c'est très compliqué pour nous. toute façon, ce n'est pas à nous d'aller exaucer les prophéties telles qu'elles doivent s'accomplir, pas à nous d'aller faire la guerre aux... Moi je dis, mais s'il y en a qui est né palestinien, c'est de sa faute. Ma faute à moi si je suis né en Normandie, lui au Burundi. Non mais c'est important, je ne dis pas ça comme ça par hasard. Quelquefois on s'en prend à des gens par rapport à leur origine, leur... mais ils n'ont pas choisi de naître là où ils sont nés. Rwanda plutôt, non? Rwanda, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Nous sommes des gens de paix, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et aussi, ça, ce verset, on va pouvoir le lire, c'est dans l'Épître aux Colossiens, je cite de mémoire, où est-ce que j'ai mis la référence? Colossiens, je crois que c'est chapitre 3, verset 19. Est-ce qu'on peut l'afficher? Colossiens, chapitre 3, verset 19. Que je vois si c'est le bon. La prière de la foi, la prière fervente. Ah non, c'est pas ça. Ça c'est bien aussi, hein. Allez, c'est peut-être aussi. Allez, c'est peut-être pas un hasard que ça s'affiche comme ça, hein, après tout. Hein, c'est jamais, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, que c'est un verset sur la paix. Alors, où ai-je mis cette référence? Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, quelque chose comme ça. Bon, écoutez, on va passer, je vais vous le retrouver, je vais vous le donner après, ce verset. Pourtant, vous l'avez trouvé? 3.15. Merci. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et littéralement, je pourrais traduire ce passage ainsi, que la paix de Christ siège en arbitre dans vos cœurs. Ça rejoint Philippiens 4. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Christ siège en arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a prié dans une situation pour trouver l'apaisement, ce que l'on ressent spirituellement, je ne parle pas d'autosuggestion, mais je parle de ce qu'on ressent à force de prier. Parce que, en fait, quand Paul dit qu'il a prié plusieurs fois, ce n'est pas plusieurs fois 3 minutes, c'est un temps qu'il a passé. Et ce qu'on ressent, c'est qu'à un moment donné, selon une option qu'on va prendre, selon une attitude qu'on va adopter, on sent plus la paix que dans une autre hypothèse. On est devant l'alternative. Parce qu'une alternative, c'est pas une chose ou l'autre. L'alternative, c'est deux choses possibles en même temps. C'est ça l'alternative. Donc, et on sent que ça bascule plutôt d'un côté que de l'autre, et c'est la paix qui siège en arbitre. Ça veut dire, si on envisage de faire ainsi, on a la paix, si on envisage de faire autrement, on n'a pas la paix. C'est l'arbitre. Mais, dans la prière, hein. Alors, ça s'apprend. Est-ce que ça, c'est la guérison intérieure? Parce que quelqu'un dira, ah, ça, c'est pas le sujet. Mais je dis, mais si, ça, c'est le sujet. Parce que la guérison intérieure, c'est de trouver l'apaisement. Vous savez, quand on arrive à être apaisé par rapport à quelque chose, c'est plus un problème. Je dis qu'on est déjà guéri, quoi. On peut être guéri comme ça de certaines choses, de la vie, de situations, même par rapport à des vécus difficiles du passé. On en parle à Dieu et il va arriver, j'allais dire quelquefois, je vais dire même toujours, qu'au bout d'un moment qui peut être long, mais là il faut laisser le temps, au temps, comme disait quelqu'un. Bon ben, finalement, on arrive à être apaisé par rapport à ça. C'est pas que ça n'existe plus, c'est pas qu'on n'y pense plus. Mais bon, allez, on n'en fait plus un drame. Et il faut quand même que... Je vois avec vous ce que la Bible dit dans le passage de Jacques 5, parce que ça c'est important, au sujet de Élie. Il pria avec instance. Vous avez ça, Jacques 5, 17. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre. C'est pas que c'était Monsieur Météo qui fait la pluie et le beau temps. J'apprécie d'avoir du beau temps ici. C'est quand même plus agréable que d'être arrivé dans les frimas des jours passés. Mais c'est pas toujours facile, cette question-là. En fait, Monsieur Élie n'était pas Monsieur qui faisait pleuvoir ou non à volonté. Parce que le pauvre, il avait eu des problèmes. Certains jardiniers seraient venus le trouver pour qu'il prie pour qu'il pleuve, d'autres pour qu'il pleuve pas. Comment il aurait fait? C'est compliqué. Mais là, c'était dans un autre cadre que ça se passait. Et j'attire votre attention sur « il pria avec instance ». Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, moi, je vais vous dire ce que ça dit. Si on traduisait mot à mot, il pria avec prière. Il pria avec prière. C'est bizarre. On peut prier sans prière? Ah ben oui. Quand c'est à sens unique, c'est Dieu qui entend, nous qui parlons. Puis après on raccroche. Fini. Il y a des gens au téléphone comme ça. C'est pratique, vous pouvez vous poser le combiné, de toute façon. Puis de temps en temps, vous revenez dire oui, 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 oui. C'est bien. Puis après, vous dites merci beaucoup pour tout ce que tu m'as dit. Bon. Il pria avec prière. Alors, Marc 11, 24. Marc 11, 24. Je sollicite le frère là-bas. Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, voilà un verset. À qui on a fait dire ce qu'il n'a pas dit? Parce que souvent on lui fait dire, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. N'est-ce pas? On fait dire ça. Et alors là, la frustration arrive. Parce que vous vous convainquez vous-même de croire que ce que vous avez demandé, ça va arriver. Vous vous persuadez. Et puis des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui ou non? Parce que c'est pas ça qui est écrit. Jésus n'a pas dit ce que vous demandez, persuadez-vous que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Parce que en disant ça comme ça, on oublie deux mots. Ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais si vous y réfléchissez, ça veut dire qu'avant de demander, on prie. Pourquoi faire? Pour essayer de comprendre ce qu'on doit demander. Ah ben oui, vous allez me dire, mais moi, j'ai pas le temps. Hein. Moi, il me faut tout de suite. Ah oui, mais ça, c'est ça le problème, c'est qu'on veut tout de suite. Hein? Il y a pour le mariage le speed dating. Et comme je vous le disais hier, maintenant même, il y a des agences qui vont vous éviter de prendre les rendez-vous vous-même, donc ils vont prendre votre place derrière l'écran pour écrire les petits mots gentils aux personnes jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon numéro, et vous aurez juste à aller vous attabler devant un café et vous aurez la personne qu'il vous faut, enfin, chaussure à votre pied, j'en sais rien. Il faut aller vite. Donc, il y a le speed dating, il y a aussi la prière Speedy Gonzalez. Faut aller vite, on n'a pas de temps à perdre. Ah ben oui, mais là, ça va pas. ce que vous demanderez en priant. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ont une vie intérieure infirme, une vie intérieure bancale, une vie intérieure agitée, tourmentée. C'est parce que, en fait, ils prennent pas le temps de se calmer devant Dieu et de laisser Dieu parler à leur cœur. Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ben oui. Ce qui fait que, avant de demander la pluie ou le beau temps, il a prié d'abord. Il était devant Dieu pour recevoir de Dieu l'inspiration. Et je crois que nous avons besoin beaucoup d'inspiration dans nos vies. Parce que dès qu'on a reçu une inspiration par rapport à quelque chose, alors là, la foi s'exerce. Vous avez remarqué ça ? Mais vous ne pouvez pas exercer la foi, à mon avis. On ne peut pas exercer la foi si on n'a pas une parole de Dieu, une inspiration divine qui nous vient d'une manière ou d'une autre, sur laquelle on peut s'appuyer. On n'a pas vraiment la foi. On peut pas. La foi vient de ce qu'on entend. Mais pour l'entendre, il faut l'écouter. Vous voyez, lorsque je vais vous partager un peu de mon témoignage par rapport à un drame personnel, je ne savais pas quoi faire, ni ma femme. J'en recevais des conseils, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les conseils opposés, mais enfin bon, ça venait de bons sentiments. Et puis, j'étais chez mon fils à Onin, à ce moment-là, après l'intervention chirurgicale, 4 heures d'opération, 4 heures et demie, et tout. Et donc, je lisais la Bible dans les psaumes, psaume 41. Je lisais ceci au verset 8. Tous mes amis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Ça, c'est une parole un peu spéciale. C'est là ? Ouais. J'ai lu ça. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est produit instantanément par le Saint-Esprit, qui m'a fait penser. Ça, c'est ce que dit l'ennemi de ton âme. C'est ce que disent les gens qui t'aiment pas beaucoup, mais qui pensent qu'ils vont être débarrassés de toi. Désolé, je le savais. Pas mentir, je le savais. Mais je dis, ça, c'est aussi ce que disent tes amis. Il peut pas se relever, parce que c'était le diagnostic. Je dis, puisque c'est comme ça, je me relève. J'appelle mon église et je dis que je rentre dans l'immédiat. Et je reprends la prédication. Ça faisait 15 jours que l'accident était arrivé. Au milieu de l'accident, mon père a fait une rupture d'anévrisme abdominal. Et après 21 jours de coma, il est mort. Lui. Tout ça, on l'a vécu, n'est-ce pas ? Mais j'ai dit, puisque c'est ainsi, je me relève, j'appelle. Alors, on m'a dit là-bas, mais attends, t'es fou, faut te reposer, 2 ans. J'ai dit, pourquoi 2 ans ? J'ai dit non, sans voix, j'étais sans voix pratiquement. J'ai dit non, parce que quand on est tombé de cheval, il faut remonter tout de suite, sinon on ne remontera jamais. Je passe des détails sur les conditions pour arriver à parler en public avec des cordes vocales complètement en drapeau pour cause de coupure. coupure du nerf récurrent qui se trouve derrière la carotide, enfin tout un diagnostic là qu'il y a autour. Mais je dis ça pourquoi ? Pour dire qu'il faut prier, prendre du temps pour prier, pour savoir ce qu'on va demander, parce que on n'a pas la direction toujours de savoir dans quel sens aller. Et dans des conditions pareilles, vous n'avez aucune direction. Vous envisagez des hypothèses, mais vous ne savez rien. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce que je crois, c'est que pour notre guérison intérieure, notre force intérieure, et après Dieu m'a guéri physiquement aussi, mais je ne peux pas expliquer tout dans les détails. Pour notre guérison intérieure, il faut prendre du temps devant Dieu, parce qu'il y a des choses que personne ne peut résoudre. Autant j'ai dit qu'il ne faut pas blâmer ni les psychologues ni les psychiatres, ce sont quand même des gens qui essaient de soulager la souffrance, et heureusement qu'il y en a, je vous le dis franchement, heureusement qu'il y en a des gens comme ça, pas des faux qui se mettent psychothérapeutes et qui étaient pizzaïolo avant. J'ai rien contre les pizzaïolo, hein, j'ai rien contre, vraiment, j'apprécie ce qu'ils font, mais comme dans notre pays n'importe qui peut se mettre psychothérapeute sans diplôme, puisque c'est pas, comment dirais-je, c'est pas encadré, c'est pas contrôlé, alors méfiez-vous des imitateurs et des charlatans. Mais à part ça, il y en a quand même des gens sérieux dans la profession médicale et psychiatrique. Seulement, il y a des choses que c'est seulement Dieu. Seulement Dieu qui peut les résoudre. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on arrive, mais je ne vais pas en parler maintenant. Je ne sais pas, je me laisse aller à trop parler peut-être, à trop développer, mais je crois qu'il faut le faire. Après, on arrive à ce qu'on va nous appliquer de l'huile, quoi. Je vais voir si j'en parle cet après-midi. Je vais en dire deux mots. Je vais m'arranger pour cumuler les deux sujets, la suite de ça et puis ce que j'avais prévu. Mais, oui, après, on arrive à une application d'huile. Mais ça vient pas comme ça, quoi. Vous voyez ? Ça vient pas comme ça, magiquement. Alors, derrière ça, il y a tout un travail spirituel de la part de celui qui est malade, comme c'était écrit, c'est-à-dire affaibli ou autre. Et puis aussi, je suis obligé de le dire, de la part de ceux qui vont prier pour nous, je m'implique dans ceux qui prient pour les autres. J'ai besoin qu'on prie pour moi, mais dans mes fonctions, je prie pour les autres aussi. Je ne fais pas ça par métier, hein. Mais je dirais par vocation. Mais ça implique qu'on n'aille pas vers les autres comme ça pour prier pour eux à l'emporte-pièce. Hein ? Ne me dites pas, c'est compliqué, on n'a pas le temps. Ben, voilà. Si vous n'avez pas le temps, ne le faites pas. Si vous n'avez pas le temps de vous placer devant Dieu avant d'aller voir quelqu'un qui souffre pour l'aider, n'y allez pas. Parce que qu'est-ce que vous allez lui raconter ? Votre vie ? Oui, parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont visiter les malades, mais ils racontent leur vie. Ah oui, ah moi j'ai eu pareil que vous. Ou bien le comble, j'ai connu quelqu'un, il avait pareil que vous, 3 jours après il était mort. Il y a des gens qui vont visiter des malades, mais ils ne s'occupent pas du malade, c'est leur vie qu'ils racontent. C'est pas ça qu'on leur demande, ils ne font pas une onction d'huile, ils font une onction de vinaigre. Bon, on va prier, et puis si vous avez une ou deux questions, je vais vous laisser la parole. C'est... De toute façon, c'est pour ça que je vous disais au début que le texte et la pratique a été contestée par rapport à toutes les églises issues aussi du paganisme. Certains commentateurs et historiens de l'église disent que c'était peut-être pratiqué dans un contexte judéo-chrétien, mais que en dehors, ça n'a pas sa raison d'être. Bon, je ne veux pas entrer dans le débat, Mais en fait, dans les évangiles, il ne s'agissait pas d'aller vers les inconvertis ou vers les convertis, puisque en fait, c'était que l'Église n'était pas encore constituée, donc il les a envoyés dans le cadre d'Israël quand même, où la pratique de l'onction d'huile était déjà dans la culture, c'est pour ça qu'à mon avis le Seigneur leur a dit de le faire, parce que l'onction d'huile n'était pas nouveau pour eux. Il y avait plusieurs onctions d'huile, plusieurs sortes, dans plusieurs domaines, c'est pour ça. Mais dans le cadre de l'Église, ma pensée, c'est premièrement que pour les chrétiens ça ne soit pas fait n'importe comment déjà, et deuxièmement, je dis, il est écrit quelqu'un parmi vous, donc ce texte s'applique à des parmi vous, ça veut dire parmi vous, c'est la communauté chrétienne, quoi, c'est une assemblée chrétienne, c'est parce que quand on voit tout le contexte que j'essayais d'expliquer qui entoure cette pratique, ben ça ne peut s'appliquer qu'à des personnes qui connaissent Dieu et qui savent ce que veut dire prier, etc. quoi. C'est mon avis. Et quand des fois, c'est vrai, dans des moments où il y avait ce temps de prière, il est arrivé que des personnes dont je savais qu'elles n'étaient pas baptisées, même converties, qui s'approchaient, je disais, pour moi ou aux frères qui faisaient la prière avec moi, je leur disais, écoutez, on prie quand même pour la personne. Donc on ne mettait pas d'huile, mais on priait pour la personne. Quand même, on ne peut pas rejeter quelqu'un qui vient pour qu'on prie. Priez pour elle, sans, comme ça. Bon. Maintenant, sur le reste. Je pratiquais aussi en demandant aux gens de venir, je faisais pas l'onction d'huile dans le cadre de la réunion publique générale, quand ça se passait à l'église. Je demandais aux gens de venir avant, pour qu'on puisse aussi un peu parler, et que ça se passe en petit comité, si vous voulez, pour garder quand même, parce qu'on ne peut pas hypothéquer une réunion générale. Ça, c'est un autre problème dans nos pratiques, où quelquefois on hypothèque tout le monde, quoi, pour une ou deux situations qui, certes, ont besoin de soins, mais bon, on ne peut pas bloquer tout un déroulement de culte, quoi. Enfin, c'est qu'une opinion. Mais bon, c'était le frère qui avait levé la main. Ça, c'est... Oui, enfin, disons, j'ai mis l'accent sur des précisions de texte. Mais il faut reconnaître que si c'était traduit mot à mot, ce serait très lourd dans notre langue. Donc ça, c'est le problème de la traduction. Quelqu'un a dit, traduire, c'est trahir. Et c'est forcément vrai quelque part, à un moment donné. C'est pour ça que quand on s'attache à l'étude... Il faut étudier, il faut aller au texte. Si on n'a pas accès à l'original, on prend au moins plusieurs traductions et on compare les textes, on regarde. Il y a quand même aujourd'hui des outils de travail qui sont bien faits et qui permettent d'avoir accès, notamment il y a la Bible à la colombe avec notes, qui est la première édition en fait. Après, depuis, à des fois on sort des Bibles à tout vent, à tout va aussi, et on ne voit pas trop l'intérêt, mais la première Bible à la colombe avec notes en bas de page, au moins un quart de la page en bas, était très bien faite, parce que souvent il y avait des renvois pour donner des sens précis à des passages, tout en comprenant bien que c'est pas très littéraire dans un texte courant. Par contre, il y a des traductions, oui, qui défigurent un peu le texte, comme le français courant. Ça, c'est quand même gênant. On veut parler avec le français élémentaire, aussi dans d'autres traductions, limiter le nombre de mots, mais on défigure. Alors, bon, c'est peut-être ma formation qui fait que je parle comme ça, mais je crois que si Dieu avait voulu une langue élémentaire, avec un minimum de vocabulaire pour exprimer le texte écrit, il aurait fait ça. En plus. Et en plus, c'est des langues mortes, ça veut dire elles ne bougent plus. Et nous, nous avons des langues vivantes. Même le français, il évolue. Le sens des mots évolue en français. Vous voyez ? Donc, c'est... Bon, mais on arrive quand même à cerner. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de très, très pointu sur ce texte en particulier. J'y suis arrivé peu à peu à le faire. Aussi interpellé par le décalage entre nos pratiques et nos résultats et ce que semble promettre le texte. C'est quelque chose que je n'ai pas compris là, ou qu'on n'a pas compris. Je me suis rendu compte, à l'évidence, qu'on voulait, attribuer à cette pratique des vertus curatives, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit, pour moi, le plus grand bénéfice que j'ai retiré de l'étude précise de ce passage, c'est « Le Seigneur le relèvera et la prière de la foi sauvera le malade », quand j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de savoir si oui ou non il aurait toujours ou non la maladie en cas de maladie, mais il y aurait eu une action intérieure pour que le malade, même avec son handicap, ne soit plus le même homme, quoi, ou la même femme. Alors ça, j'ai dit ça c'est ça. Et ça, je dirais, ça devrait toujours aboutir à ça. Toujours. Pas toujours quand même, mais ça c'est un objectif je crois qu'on peut promettre, parce que c'est le problème de l'enseignement sur la guérison divine au sens physique. Puis-je dire qu'on ne l'enseigne pas correctement? Je le dis. Pourquoi? Parce que la Bible ne l'enseigne pas telle qu'elle. On voit des malades physiques guéris, mais on n'a pas un schéma qui nous dit voilà comment il va falloir l'enseigner. Et alors, en disant, par exemple, ils imposeront les mains aux malades et tous les malades seront guéris, et que ça se passe, qu'on le fait et qu'après ils repartent malades et qu'ils reviennent la fois d'après, franchement, je suis mal à l'aise. Je vous le dis comme je le ressens. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui suis mal à l'aise. Donc après, il y a une réflexion à se faire sur le sens de guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et puis on a vu le premier soir, vous avez été guéri, disait Pierre. Alors on pourrait, avec ambiguïté, penser que dans l'église de ce temps-là, donc, il n'y a plus de malade du tout. Ce qui me fait dire de quoi il mourrait alors. Attends, juste là-dessus. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, dans Ésaïe 53, donc c'est le verbe Rapha qui est utilisé, guérir, Raphaël, Dieu guérit. Mais ce verbe guérir n'a pas le sens étroit que nous on va donner. Par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai plus mal à la tête. Guérir, ça veut dire, c'est la personne qui se trouve reprise en main par Dieu et reconstruite, refaite par ses meurtrissures. Alors là, je me suis posé la question du lien logique entre les meurtrissures de Jésus et notre guérison. J'ai cherché un lien logique, pas seulement une figure de style poétique. Et même, ça pourrait être rendu par « dans ces meurtrissures, nous sommes guéris ». En fait, je crois avoir compris que ça voulait dire que les meurtrissures de Jésus, qui ont eu lieu à des sièges particuliers de son corps, ça veut dire dans ses mains, ses pieds, son côté, sa tête, ça représente, si vous voulez, les lieux névralgiques de l'être humain. Sa tête, c'est ses pensées, ses mains, c'est ses actions, ses pieds, c'est ses mouvements, son côté, ses sentiments, tout ça. Et lorsque, puisque la Bible dit, vous avez été crucifiés avec Christ. Lorsqu'on arrive à être identifié avec Christ dans sa mort, on a été crucifié avec lui, ça veut dire des pensées crucifiées, nos pensées humaines sont crucifiées pour laisser place aux siennes. Nos mains, c'est plus nos mains. Nos mains sont capables de faire tellement de bêtises, il faut les crucifier. Nos pieds aussi. Nos sentiments peuvent nous tromper. C'est la mort à soi-même. Et quand on est dans cette position spirituelle d'être mort à nous-mêmes, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors on est guéri. On est guéri, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus les revendications de la chair qui regimbent. Et mais on est guéri spirituellement. On est tellement guéri, c'est parce qu'on est mort. Et la Bible dit, celui qui est mort, celui qui est libre. Hein. C'est vrai, celui qui est mort, il n'a plus faim, il n'a plus soif, il n'a plus de soucis, il n'a plus de tentation. Et dans cette position, j'ai cru comprendre que c'est ça que ça voulait dire, notre guérison. Elle est dans une pleine identification avec Christ dans sa mort. Et quelquefois, nous n'arrivons pas à la guérison parce que tout n'est pas mort en nous, quoi. Il y a encore une partie qui regimbe, qui discute, qui objecte. Et comme disait le Seigneur à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu seras vieux, un autre te scindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Et en fait, oui, c'est le disciple qui est crucifié avec Christ. Voilà, j'ai dit ça très rapidement, je ferai plus le développer, mais c'est une sorte de direction. Mais je crois que le frère Jean Bosco. C'est pareil, quoi. C'est-à-dire que toutes les paroles adressées comme ça à des malades physiques ou à des infirmes, même dans les évangiles, même Jésus, étaient des paroles de révélation. Toutes. Toutes. Donc, dire Jésus a guéri tous les malades partout, c'est pas vrai. Je suis désolé. C'est, pour certains lieux, c'est vrai, c'est écrit. Pas partout. Alors, dans ce contexte, puisque j'ai enseigné les actes des apôtres à l'école biblique dans plusieurs années, même j'ai écrit un commentaire, je ne sais pas si vous l'avez, aux éditions Viens et Vois, qui s'appelle Passons aux actes. Je crois comprendre que ce qui s'est passé là, c'est un échange, enfin c'est une expression, une manifestation de dons spirituels. Tous les jours aussi, eux, ils passaient devant lui, il ne se passait rien. Et puis un jour, il les regardait attentivement. Alors Pierre, de même que Jean, dit, regarde-nous. Comme vous diriez à un enfant qui a une expression spéciale, mais regarde-moi toi. Regarde-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrive, ça. Donc, ils ont discerné que quelque chose était en train de se passer dans ce boiteux et ils s'attendaient à recevoir d'eux quelque chose. Pourquoi de l'argent? C'est pas forcément de l'argent. Il était dans une attente pour recevoir d'eux quelque chose. C'était pas forcément de l'argent, c'est pas écrit ça. Ça, on extrapole. Et Pierre, de même que Jean, regarde-nous, attendez. Il dit, je n'ignore ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a reçu de Dieu une parole de révélation qu'il a communiquée à cet homme qui s'est levé. Sinon, il ne se serait pas levé. Mais ça montre que Dieu, dans sa souveraineté, a son temps. Puisque Jésus, c'est vrai, était passé, rien ne s'était produit, Les apôtres eux-mêmes, ils passaient là plusieurs fois par jour, puisqu'au début, les premiers disciples participaient aussi à la vie du temple. Ils étaient assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. Quand ils disent qu'ils étaient assidus au temple, c'est pas à l'église. Ils étaient assidus au temple. Donc ils avaient des réunions. Et puis comme il y avait des parvis, des esplanades, ils pouvaient aussi faire des réunions entre eux. Vous voyez ? Mais c'est, et je crois que c'est cette dimension qu'il faut chercher, de vivre dans un esprit, dans un climat où Dieu peut nous inspirer. Vous voyez ? Parce que je crois que l'inspiration, ça existe. Seulement l'inspiration ne vient pas par hasard, par accident. Priez sans cesse, dit la Bible. Voilà. Donc qu'on fasse des choses, mais on est là, on est à l'écoute de Dieu, et c'est cette dimension. Et ça, on ne peut pas la remplacer. C'est-à-dire que l'aspect musical, l'aspect choral, l'aspect tout ce qu'on veut, ça a sa place. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la recherche, pas d'une ambiance, mais d'un esprit de révélation et d'inspiration dans l'Église. Et ça, c'est important. Parce que s'il n'y a pas ça, on n'est pas digne d'être appelé à l'Église de Pentecôte. Hein. Être charismatique, pas au sens galvaudé, mais au sens, on a besoin d'une dimension charismatique, de ministère charismatique. On parlait un peu, je crois, je ne sais plus si c'était avec le pasteur hier. Il y a plein de choses dans la société que les gens font et mieux que nous. Il y a des bons organisateurs, des bons musiciens, je dénigre pas. On en a aussi besoin. Heureusement que le frère qui est derrière l'appareil, il sait faire pour qu'on ait le verset qu'on demande. Il n'y a pas de mépris de ma part. Mais je dis quand même que ce qui caractérise l'Église du Seigneur, c'est que surtout les capacités soient charismatiques. Ça veut dire que ça, alors ce sont des choses qu'on ne peut pas apprendre. Parce qu'aujourd'hui, même le mot charismatique, il est galvaudé, quoi. On l'utilise pour n'importe quoi. Des hommes charismatiques, vous avez donc, oui, des gens qui savent faire, quoi, dans le domaine de l'animation médiatique. Ah, ils savent faire, hein. David Guetta, c'est un champion, hein. Mais moi, je suis choqué. Si des conducteurs de chant font David Guetta, ça veut dire, ils commencent par dire en arrivant, allez, levez tous vos mains. Et comme certains pensent que lever ses bras, c'est l'attitude de la prière, alors tout le monde lève les bras, c'est que Guetta, il fait ça. C'est pas charismatique, ça. C'est des chauffeurs de salle. Chauffeurs de salle. Nous avons besoin d'une dimension charismatique. Excusez. Pourquoi vous posez cette question comme ça? Je crois que dans l'Église, il faut qu'il s'établisse un consensus et que ceux qui ont une fonction de s'occuper du troupeau, ben, ils soient quand même dans les critères. Je prends le problème beaucoup plus loin. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire à une œuvre excellente, mais voilà ce qu'il doit être. Et dans l'épître à Timothée, il y a des conditions de vie, de spiritualité, de crédibilité. À partir du moment où dans l'Église, des gens sont reconnus comme ayant autorité sur leurs frères, une autorité d'amour, hein, pas une autorité de garde-chiourme, mais une autorité vraiment d'une qui vient de la compétence, parce que vous m'emmenez loin par votre question, parce que je ne peux pas répondre par oui ou non. Ce qui donne l'autorité dans l'Église, comme ailleurs, c'est qu'on a la compétence pour faire ce qu'on fait, on a l'inspiration, et l'amour. À partir de là, si les gens qui ont des fonctions ont ces critères, il n'y a aucune raison de ne pas les employer, si je peux dire ainsi, pour pratiquer l'onction d'huile, prier pour les gens par la position des mains et tout, parce que ben, ils sont crédibles, quoi. Ils sont crédibles. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on l'interdirait. Ça se fait dans un consensus dans l'Église. Moi, il m'est arrivé souvent de faire appel à des frères de l'Église qui ont ces critères pour qu'ils viennent assister les pasteurs dans des temps de prière pour les gens. Et il n'y a pas de souci, hein. Au contraire, je crois que c'est la sécurité de l'Église d'avoir des colonnes. Mais il faut que ceux qui ont cette fonction comprennent quels sont leurs critères. Hein. Ça, c'est tout un chapitre. Bon, moi j'ai ordre de m'arrêter à midi, mais il est midi 10. 2 heures que je suis là. Pour un cardiaque, ça peut aller, mais... Oui, frère. Eh oui. Ah oui, mais ça c'est... Oui, mais les autres jugent. Seulement, l'inspiration, elle se confirme. Si quelqu'un dit Dieu m'a révélé que s'il parle à un boiteux qui marche, oula, faut, et puis qui marche pas, il y a les faits aussi, hein. Il y a les faits, c'est que les choses qu'on dit et qui sont soi-disant inspirées, elles doivent se réaliser. Maintenant, il y aura toujours un pourcentage. C'est pour ça qu'il est dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. La Bible envisage le taux d'erreur ou d'imperfection, pas d'erreur, hein, d'imperfection. Et ça c'est un autre chapitre parce que on voit. Alors là vous me défiez, hein, c'est que dans les Actes des Apôtres, même quand il y avait des paroles dites inspirées, des prophéties ou autres, après, qu'est-ce qu'ils faisaient, les frères ou l'Église ils priaient. Ça, on oublie. Ça veut dire qu'ils écoutaient la parole et après, ils restaient dans la prière, ils réfléchissaient devant Dieu pour savoir ce qu'ils devaient en faire. Parce que l'Église n'est pas dirigée par des prophéties. Il peut y avoir des prophéties, mais c'est pas comme ça qu'on prend des... Si quelqu'un demain matin dit ainsi parle le Seigneur, vendez cette salle et allez ailleurs, je vous dis, attendez, avant de le faire, examinez.